Et on va lire les versets 18, à partir du verset 18, jusqu'à 19, verset 7. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Après s'être fait raser la tête à Sanchré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point et il prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il a annoncé et enseigné avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connaisse que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Je vais m'arrêter ici. Alors, en lisant tout ce passage, il y a un mot qui a retenu mon attention. C'est le mot « exactitude ». Donc, dans d'autres versions, ce terme a été traduit par « diligence » ou « soigneusement ». Mais la plupart des traductions ont choisi plutôt ce mot français « exactitude ». Donc, l'idée d'être exact, d'être précis. Et c'est une qualité dans un monde qui est de plus en plus dans l'approximatif. Ne dit-on pas « chacun sa vérité ». Chacun peut donc croire ce qu'il veut, ça n'a pas d'importance. Vous croyez ce que vous voulez, je crois ce que je veux, on se respecte, tout va bien. On est chacun dans sa vérité approximative. Mais ce concept d'une vérité approximative, elle n'existe pas dans les Écritures. La Bible parle au contraire de la vérité avec un grand V. C'est la vérité, il n'y en a qu'une. Jésus a prié dans l'évangile de Jean. Donc il prie son Père, il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ses disciples. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu est la vérité. Ailleurs, nous lisons également « L'Esprit de Dieu vous conduira dans la vérité, une seule vérité. » Et donc, la notion de vérité, d'exactitude est importante dans la Bible. Luc, donc celui qui a écrit l'évangile de Luc, au début de son évangile, dit, donc il est en train de s'adresser à quelqu'un, à Théophile, il dit « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes les choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile. » Et c'est le même mot ici, « exact », donc des recherches précises. Il était médecin, donc il était méticuleux sur les dates et sur tous les détails historiques. C'était important pour lui. L'apôtre Paul va dire, il va employer cette fois un autre terme, il va dire à Timothée, mais ça a le même sens, il va dire à Timothée, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. » Voilà, encore ici, minutie. De nouveau, l'exactitude qui est importante, surtout en ce qui concerne les Écritures, la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Et donc, c'est normal et c'est souhaitable de chercher à être exact dans ce que nous croyons ou dans ce que nous faisons. Et j'aimerais qu'on puisse voir ce matin l'exactitude dans trois domaines. Donc, dans ce passage, on voit d'abord l'exactitude dans la liberté, l'exactitude dans l'enseignement et l'exactitude dans l'obéissance. Alors d'abord, l'exactitude dans la liberté. Paul quitte Corinthe avec Priscille et Aquilas. Ils s'embarquent pour la Syrie. Mais juste avant le départ, alors qu'ils sont sur le port de Corinthe, sur la rive orientale, Cenchrée, donc c'est une petite ville qui est juste à côté, mais portuaire, là, Paul fait un vœu. Alors, quand on regarde dans l'histoire des peuples, le fait de faire un vœu, c'est quelque chose, ça s'est toujours fait, hein, et partout, sur toute la terre. Le premier vœu dans la Bible, c'est celui de Jacob. Je résume un peu, mais Jacob va dire, « Si Dieu est avec moi et me garde dans le voyage, alors je te donnerai, Seigneur, la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc voilà, il s'engage, il fait un vœu vis-à-vis de Dieu. Donc, bien avant la loi, l'homme faisait déjà des vœux. Et après cela, la loi de Moïse, elle est venue encadrer, notamment un vœu en particulier, mais sans donner une obligation de vœux. C'est un petit peu comme le jeûne. La loi de Moïse n'oblige pas à jeûner, mais elle peut donner des détails, hein, sur le jeûne. Et par contre, quand on lit la loi, on voit que Dieu dit, si par contre tu fais un vœu, alors là, eh bien, remplis ton vœu, va jusqu'au bout. Il est dit dans le Deutéronome, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Donc voilà, si tu fais un vœu, alors tu vas jusqu'au bout. Et sinon, ben alors garde-toi de faire un vœu. Garde-toi de faire un vœu. Qu'est-ce que c'est un vœu? C'est un engagement volontaire à se consacrer ou à consacrer, dans la Bible on voit consacrer un enfant, hein, Anne a consacré Samuel, hein, ou bien c'est consacrer des biens, des choses à Dieu. Et donc Dieu ne veut pas qu'on s'engage d'une manière qui est irréfléchie. On a l'exemple dans les juges de Jephté, vous vous souvenez, il a fait un vœu qu'on peut qualifier d'insensé. Et la loi, quand on prend le livre des Nombres, elle développe en particulier un vœu, donc l'idée de se consacrer, le vœu de la consécration de sa personne. Donc ce vœu se nomme le Naziréa ou le Naziréen, où là, on va se consacrer à Dieu d'une manière spéciale. Et donc, la loi de Moïse le définit pour un temps qui est limité. C'est Nombre 6 qui explique un peu comment ça doit se passer. J'aimerais qu'on le prenne ensemble pour mieux comprendre notre passage dans le livre des Actes. Et on va lire les versets 1 à 5. « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant un vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vin fait avec du vin, ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. » Donc on ne va pas lire tout le chapitre. Après, il est question de ne pas toucher un mort. Il ne doit pas toucher un mort parce que s'il vient toucher un mort, eh bien ça brise cette consécration à l'Éternel. Il est obligé de recommencer comme si, eh bien, il n'avait pas accompli ses jours de consécration. Et là, dans ce passage, on voit la raison de ce vœu est clairement dite. C'est comme étant la consécration à l'Éternel. Alors, pour ceux qui connaissent un petit peu la Bible, ça fait penser à l'histoire de Samson. Hein? Samson qui était consacré à l'Éternel, sauf que pour lui, il avait été consacré dès sa naissance. Et donc, c'était pour toute sa vie. Alors qu'ici, eh bien, on voit que c'était un vœu pour un nombre limité de jours, un vœu volontaire, en fait, hein? Spontané. Et on va regarder la suite, Nombre 6, versets 18 à 20, un petit peu plus loin. Il est dit... Le Naziréen rasera à l'entrée de la tente d'assignation sa tête consacrée. Il prendra les cheveux de sa tête consacrée et il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Et il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Et donc, dans ce passage, on voit que son vœu prenait fin quand eh bien, il se rasait la tête à la fin des jours de sa consécration. Et ensuite, ses cheveux étaient mis au feu avec le sacrifice d'action de grâce. Hein. Puis le sacrificateur eh bien, prenait l'offrande, il agitait, donc gâteau sans levain, galette sans levain. Et alors, le vœu était accompli. Et de nouveau, eh bien, il pouvait reprendre du vin ou boire du vin. Maintenant qu'on a ce contexte, revenons maintenant dans le livre des Actes, acte 18. Et parce que Paul s'était fait raser la tête, car il avait fait un vœu, nous dit le passage, et ensuite... parce qu'il lui fallait absolument, selon ses propres mots, aller à Jérusalem. Alors, il dit pour la fête, hein, mais il avait besoin absolument d'aller à Jérusalem. On pense qu'il peut s'agir en fait d'un vœu de Naziréa. Paul se serait consacré d'une manière spéciale à son Dieu pour un temps. Il se serait donné d'une manière spéciale, un temps limité. Et ce temps achevé, le vœu accompli, eh bien, il s'est fait raser la tête. Hein, mais maintenant, eh bien, il aurait voulu présenter ses cheveux au sacrificateur pour qu'ils soient brûlés et qu'ils montent en offrande, comme un sacrifice agréable à l'Éternel. Alors, c'est une possibilité, hein, ça semble vraiment être ça. Maintenant, ça pose ça laisse perplexe. Pas un problème, mais ça laisse perplexe. Pourquoi ? Parce que là, on voit Paul qui est quand même très scrupuleux, hein, pour respecter ce que la loi de Moïse dit concernant eh bien, le vœu. Est-ce que Paul n'était pas libre, finalement, de la loi ? Un peu plus loin dans les Actes, on le verra ensemble, Paul va recevoir un conseil de Jacques qui va lui dire de donner ce qui est nécessaire pour l'offrande parce que quatre hommes avaient, eh bien, semble-t-il, aussi fait un vœu de la même manière. Et donc, Jacques lui dit, mais vas-y, va, comme ça, les Juifs vont savoir que tu te conduis en observateur de la loi. Et ça semble être le même vœu. Donc, le fait d'observer ces choses concernant le Naziréa, eh bien, c'était vraiment être un observateur de la loi. Et Paul se comporte en observateur de la loi. Mais en même temps, quand on lit le livre de Galates, on voit... Il est dit, et c'est lui qui dit ça, que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi, et non par la loi. Un peu plus loin, il dit, la loi a été donnée comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Ou bien, encore un petit peu plus loin, il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ? J'avance encore. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ou encore, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et là, on a du mal à comprendre. Paul enseigne qu'il n'est plus sous la loi. Et pourtant, il agit vraiment en respectant la loi de Moïse, jusque dans les prescriptions du Naziréa, semble-t-il. Mais si on veut être exact, vraiment, il faut aussi qu'on le soit dans la liberté que nous accordons aux autres. Dieu ne dit pas que celui qui respecterait la loi de Moïse serait aujourd'hui coupable. Mais il dit que celui qui respecterait la loi de Moïse pour sa justification, alors lui, il a tort, il se perd, il est dans l'erreur. Dieu ne justifie pas l'homme par la pratique de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un ne veut plus ou ne veut pas manger de porc, ou s'il ne veut pas manger de fruits de mer, puisque dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est aussi quelque chose qu'il ne fallait pas manger, ben, il est libre, il peut ne pas le faire. Tout comme Paul était libre de faire ce vœu selon le rite que les Écritures donnent, libre, nous sommes libres, tous libres de mettre en pratique la loi, du moment que ça ne revêt pas pour nous une importance qui est salutaire. Que voilà, on est sauvé, hein, il faut le faire. Celui qui croit être sauvé par la pratique de la loi, il est perdu. Ça reviendrait à dire que la grâce et que le sang de Jésus-Christ ne suffit pas. Si, ça suffit, c'est entièrement suffisant. Mais cette liberté, elle doit exister dans les deux sens. Et c'est bien, je pense, l'enseignement que Paul veut nous donner. C'est quand même touchant, hein. Finalement, on n'a pas grand-chose. Simplement, on voit, il fait ce vœu, il va à Jérusalem, et hop, il ne nous est même pas expliqué ce qui s'est passé à Jérusalem. Non, simplement, il fait ça, et puis il s'en va. Il n'attache pas une importance démesurée à la chose, mais il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il était libre de le faire. Paul respecte peut-être la loi pour lui-même ici, mais il ne l'impose pas aux autres. Et même il dit aux autres, vous êtes libres, vous êtes libres. Et ce serait une erreur que d'imposer la loi de Moïse comme étant obligatoire pour tous les hommes qui ont cru en Jésus-Christ. Ou de penser que l'on est meilleur que son frère parce que nous, on respecte la loi, les fêtes et d'autres choses. Et Dieu veut qu'on soit exact en ce qui concerne la liberté, à la fois notre liberté, je suis libre, mais aussi l'autre est libre de faire d'une autre manière. Exactitude en ce qui concerne la liberté. Alors, eh bien, Paul est de retour de Jérusalem, il revient à son église d'Antioche, hein, l'église missionnaire d'envoi, et il est maintenant en Galatie ou en Phrygie, et là, Apollos fait son apparition. Acte 18, versets 24 et 25. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et là, on voit un juif qui avait compris qui était Jésus. On se demande, mais est-ce que par hasard, eh bien, d'Alexandrie, il était allé en Israël? Peut-être qu'il était quand même âgé, hein, Apollos, et qu'il aurait eh bien, été en contact avec Jean-Baptiste, je ne sais pas, ou bien simplement avec des disciples de Jean-Baptiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est fait baptiser du baptême de Jean, ne connaissant que ce baptême, et il enseignait les autres à se faire baptiser du baptême de Jean. De la même manière. Alors Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus. Dieu a permis que Jean-Baptiste vienne préparer la voie du Seigneur, préparer le chemin du Seigneur. Et il criait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et puis ensuite, il encourageait ceux qui étaient repentants eh bien, à se faire baptiser en signe de leur repentance. D'une certaine manière, ce baptême était une image de la purification des péchés. Mais Jean-Baptiste lui-même savait que ça ne suffisait pas. C'était juste quelque chose qui était une préparation des cœurs. C'était une entrée en matière pour préparer Israël à recevoir son Messie. Et là, en réalité, le baptême ne purifiait pas, il ne sauvait personne. C'était juste une introduction. Et quand Jésus est apparu, immédiatement, Jean-Baptiste s'est effacé. Il s'est courbé devant le maître. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis voilà, il voulait se cacher et laisser Jésus-Christ en avant, toute la place au Fils de Dieu. Il faut qu'il croisse, que moi je diminue. Pourquoi ? Parce que sa mission, c'était justement cela. Préparer, accueillir Jésus, et puis après s'effacer. Et cela, Apollos l'avait bien compris. Pour lui, c'était très clair, très clair. Apollos avait compris, il faut se repentir, il faut se faire baptiser du baptême de Jean, et puis reconnaître Jésus comme étant le Messie d'Israël. Alors, eh bien, Apollos annonçait cela avec zèle, avec ferveur, mais il leur parlait probablement beaucoup plus de Jean-Baptiste que de Jésus et de ce baptême de repentance qui était important. Puis après, eh bien oui, il disait, mais Jésus, c'est le Messie. Alors, Apollos était exact dans les choses qu'il disait, et pourtant, tout n'était pas parfait. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Verset 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Et on voit, Apollos avait besoin qu'on lui explique plus exactement les choses, et on voit l'importance de l'exactitude dans l'enseignement. Alors, au premier abord, c'est un peu difficile à comprendre. Pourquoi ? Parce que Apollos, quand même, il prêche Christ, il dit qu'il est, que Jésus est le Messie d'Israël, que les prophètes l'ont annoncé, et puis on connaît le baptême de Jésus, mais bon, Apollos quand même, il encourageait à se faire baptiser, même si bon, c'était le baptême de Jean. Mais baptême de Jean, baptême de Jésus, finalement, c'est un baptême, c'est descendre dans l'eau. Est-ce que ce n'est pas pareil ? Mais non, ce n'était pas la même chose. Et on ne devrait pas se contenter d'un enseignement qui est approximatif, en se disant, bon, il ne faut pas trop chercher dans le détail. On ne va pas pinailler et essayer d'aller plus loin. Mais Dieu veut qu'on soit exact dans ce que nous disons ou enseignons. On se souvient des Béréens, chapitre 17. Ils examinaient chaque jour pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'était important pour eux. Et l'exactitude de l'enseignement, c'est vraiment primordial. Pourquoi ? Parce que c'est la vérité des Écritures que l'on prêche, que l'on avance. La Bible est une épée qui sépare âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Elle est comme le scalpel de Dieu qui vient opérer nos cœurs. Elle vient révéler nos péchés. Elle vient éclairer avec précision, là exactement où il faut. Et on ne peut pas arrondir un peu les angles des Écritures et puis prendre une chose pour une autre, comme ici, et dire, ben finalement, baptême de Jésus, baptême de Jean, ben c'est pareil, c'est un baptême. L'important, c'est de croire en Jésus. Tu crois en Jésus, je crois en Jésus, tout va bien. On croit en Jésus ensemble. Dieu veut qu'on soit exact dans ce qu'on dit et ce que l'on croit. Et Dieu est un Dieu de l'exactitude. Il est parfait. Il aime la perfection. Il aime la précision. Et donc, c'est normal d'essayer d'être le plus exact dans notre approche des Écritures, dans notre développement des Écritures. Or, bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on coupe un cheveu en quatre. Et si ce n'est pas clair, ben c'est vraiment pas clair. Et on ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Il faut savoir s'arrêter. Mais il faut aussi être exact là où on peut être exact, parce que c'est écrit. Et concernant le baptême, Dieu ne nous laisse pas dans l'ignorance. Et on voit toute l'importance que peut revêtir ce qui en apparence n'est qu'un détail. Baptême de Jésus, baptême de Jean. Regardez la suite, nous dit que ce n'est pas un détail. Acte 19 et versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse, ayant rencontré quelques disciples. Il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Et donc là, on est à Éphèse. Et à Éphèse, Apollos avait enseigné. C'est là où Aquilas et Priscille l'ont rencontré. Et donc, il avait enseigné le baptême de Jean. On peut présumer, comme le passage se suit, que eh bien, les auditeurs d'Apollos étaient en fait ces personnes-là en acte 19, où Paul est en train de leur expliquer les choses. Ils se sont tous fait baptiser en signe de leur repentance. Ils avaient entendu que Jésus était le Messie d'Israël, mais pourtant, ils n'étaient pas encore sauvés. Ils n'étaient pas encore de vrais enfants de Dieu. Et on le voit dans cette question que Paul leur pose. Hein, peut-être il s'est posé la question. Alors il leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes vraiment enfants de Dieu? Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Et de quel baptême avez-vous été baptisé? Du baptême de Jean. Et on voit que ces disciples n'étaient pas encore des vrais disciples de Jésus. Ils avaient été préparés, finalement, mais ils n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et on voit ici un détail qui n'est pas un détail, qui a une importance vitale. Voilà, donc ce n'était pas vraiment un détail sans importance, c'était quelque chose d'important. L'enseignement reçu ici n'était pas tout à fait exact. Et aucun d'eux n'avait été baptisé, n'avait reçu le Saint-Esprit, n'avait pas été scellé du Saint-Esprit. Et ce matin, je vous demande, est-ce que vous avez reçu l'Esprit lorsque vous avez cru? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit? Est-ce que vous pouvez répondre, oui, je sais que le Saint-Esprit est entré dans mon âme, dans mon cœur? Il y a beaucoup de chrétiens sur la terre, énormément. Vous prenez catholiques, orthodoxes, protestants, évangéliques, multitude de chrétiens. Mais qui a vraiment reçu le Saint-Esprit? Qui sont vraiment des enfants de Dieu parce qu'ils ont reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils ont cru? Une infime minorité comparée au nombre de gens qui se disent chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas exacts dans leur enseignement. Beaucoup se contentent d'un enseignement approximatif. C'est voilà, un petit peu de la Bible. Leur plat de consistance, c'est souvent les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, peut-être un peu moins Jean. Ça, c'est le plat de consistance. On assaisonne d'une pincée d'épîtres, pas trop, hein. Et puis, de temps en temps, on va plonger dans l'Ancien Testament pour les grandes histoires. Noé, hein, Moïse, les 10 commandements. Et puis, c'est tout. On se contente de ça. Et finalement, l'enseignement n'est pas complet. C'est complètement approximatif. Alors, eh bien, de ce fait, comme on n'a pas toute la Bible, on n'a pas la compréhension, et ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit. C'est un enseignement, on pourrait dire, généraliste, et on ne se soucie pas de l'autorité des Écritures et de la précision de ce que Dieu dit. On ne va pas chercher, on ne va pas creuser, on ne va pas comprendre. C'est quand même quelque chose quand on entend des personnes qui ont fait le séminaire, et j'imagine Joseph pourrait en parler, et qui n'ont pas lu la Bible. Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont lu pendant des années? Et puis après, eh bien, tu crois en Jésus? Je crois en Jésus. Amen. C'est bien. Mais vous savez, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il n'est pas sauvé, dit la Bible. Il n'est pas sauvé. Il est perdu. Il est perdu pour l'éternité. C'est ce que nous dit Romains, chapitre 8, verset 9. Je vous le lis. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et c'était là le problème de ses disciples. Ils n'étaient pas encore sauvés parce qu'ils en étaient restés à un baptême de repentance et ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit qu'il fallait pour être sauvés. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu la semaine dernière, hein. Ils avaient la repentance, mais ils n'avaient pas cette foi vraie, profonde, véritable, une foi qui engage, une foi dans la personne de Jésus-Christ, mort pour leurs péchés. Parce que le plus important dans ce récit, et le plus important pour être sauvé, ce n'est pas le baptême, mais c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est important de le préciser parce que le baptême ne sauve pas. Il ne faudrait pas croire que le baptême sauve. Quand on prend Actes chapitre 10, on avait vu ça ensemble dans un précédent message, c'est l'apôtre Pierre. Il arrive devant Corneille et ses amis, les païens, et il commence eh bien, à leur annoncer la parole de Dieu, Jésus-Christ crucifié, on ne peut être sauvé que, eh bien, en croyant dans le nom de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui écoutaient sa prédication. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Dieu permet même qu'ils se mettent à parler en d'autres langues. Pierre voit ça, il reconnaît qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il dit à ce moment-là, peut-on refuser l'eau du baptême au nom de Jésus à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus. Donc ces personnes avaient reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Ce n'est pas le baptême qui les sauvait. Mais c'était le fait d'avoir cru en entendant la parole de Dieu et avoir dit « Oui, je veux, je crois que Jésus-Christ, c'est vraiment le Sauveur. » Il est mort pour nous, Jésus est mort pour nous, afin que nous, nous ne mourions pas et que nous puissions vivre pour l'éternité. Est-ce que nous le croyons, cela? Est-ce qu'on le croit vraiment? Au point d'être prêt à devenir ses disciples, c'est-à-dire des adorateurs de Jésus, et des serviteurs de Jésus. Et j'en viens pour terminer à l'exactitude dans l'obéissance. Si la foi, c'est ce qui est le plus important pour être sauvé, alors pourquoi aller se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Ces quelques disciples à Éphèse auraient pu dire à Paul, « Mais on s'est déjà fait baptiser, Paul. Tu ne veux pas qu'on se refasse encore baptiser? On vient de le faire, là. » Du baptême de Jean, ça ne suffit pas, un baptême. Mais Dieu nous demande aussi d'être exact dans ce qu'il attend de nous. Pas d'approximation dans l'obéissance. Matthieu 28, versets 18 à 20. Il est dit, « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et Jean-Baptiste ne savait rien de ce baptême de Jésus. Il avait compris, il avait reçu la révélation de beaucoup de choses. Mais pour ce qui concerne le baptême au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il n'en savait rien. Mais le disciple de Jésus, c'est celui qui reconnaît en Jésus-Christ sa divinité, son autorité et sa seigneurie. Et je souligne ce mot, sa seigneurie, c'est un mot important. Parce que c'est bien ça dont il s'agit en ce qui concerne le baptême au nom de Jésus-Christ. Le baptême ne sauve pas. Le baptême ne purifie pas des péchés non plus. L'apôtre Pierre est très clair, quand vous lisez son épître, il est dit « Le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Ça ne purifie rien, rien du tout. Mais alors pourquoi se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Pourquoi? Parce que c'est la concrétisation de notre foi qui reconnaît la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. On accepte, il est Seigneur. Je le crois, je me courbe, j'accepte qu'il soit mon Dieu. Il est le Seigneur qui a autorité, qui a droit sur ma vie. Et celui qui l'accepte de tout son cœur, eh bien, il accepte aussi cette seigneurie sur sa vie. Le signe étant, il obéit au Seigneur. Jésus me demande d'être baptisé, ben, je descends. Seigneur, j'accepte, je me fais baptiser. La foi qui sauve, c'est une foi qui obéit à Jésus-Christ. Est-ce qu'on est exact dans l'obéissance, désirant faire tout ce que le Seigneur nous dit? Celui qui accepte et qui croit en Jésus comme son Seigneur, il obéit. Il veut être exact dans l'obéissance, même s'il a été baptisé d'un autre baptême. Pas d'importance. Qu'est-ce que Dieu me dit aujourd'hui? Dieu est parfait. Il aime donc l'exactitude. Je ne sais pas si vous avez entendu... Peut-être c'est passé aux infos à la télé, moi je l'ai entendu à la radio, qu'en ce moment c'est le 80e anniversaire de l'horloge parlante. Vous avez peut-être entendu un peu parler de ça. intéressant. Hein. Et donc, il y a tout l'historique de l'horloge parlante hein, qui nous est donné. Donc, c'était une horloge au commencement qu'il fallait constamment réajuster. Parce que eh bien, la mécanique humaine a bien des faiblesses. Hein, et donc, le balancier n'était pas parfait, etc. Donc, il fallait réajuster sans cesse. Aujourd'hui, nous en sommes à l'horloge à fontaine atomique. Drôle de nom, hein ? Je lisais que cette horloge atomique permet une infime incertitude. Cette infime incertitude, elle est de... Alors, pour nous, ça ne veut certainement pas dire grand-chose, hein, mais elle est de 5,10 fois 10 puissance moins 16. C'est-à-dire que vraiment, c'est une infime incertitude. On approche hein, de la perfection, mais on n'y est pas. On n'y est pas encore. Le battement est presque parfait. Mais même avec toute notre technologie, la perfection n'est pas encore possible. Dieu, lui, c'est parfait. Mais nous, ce n'est pas parfait. Et en ce qui concerne la Bible, c'est sûr, personne ne peut arriver à une perfection parfaite, hein, une compréhension parfaite. Il y a toujours un peu des ombres, parfois, des choses, des incertitudes. On est humain. Et Dieu a choisi de nous laisser aussi avec des choses qui sont difficiles à comprendre. Mais ça ne justifie pas qu'on ne cherche pas à aller plus loin, qu'on n'essaye pas de comprendre davantage. Beaucoup disent « Oh, ben, on ne peut pas savoir ». Mais est-ce qu'ils essayent de comprendre, de chercher à savoir ? Et Dieu veut qu'on soit exact, autant que cela nous est possible. Exact dans la compréhension de la liberté que les autres ont, que nous avons nous-mêmes. Exact aussi dans l'enseignement que nous reconnaissons être la vérité, parce qu'on est attaché aux Écritures. On veut être précis dans ce qu'on affirme. Et puis exact aussi dans l'obéissance aux Écritures. Si Dieu me dit « Fais-toi baptiser », je dis « Oui Seigneur, tu es mon Seigneur, j'accepte, je descends dans les eaux du baptême ». On va s'incliner dans la prière.